Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Exécuté par
qui?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cet épisode d'introduction à mon nouveau podcast éphémère. J'ai eu l'idée de ce podcast en interviewant William Régeau il y a quelques semaines. Il a écrit ce livre qui est intitulé « Trouver sa raison d'être » et en lisant le bouquin et en me frottant aux questions qui sont proposées, je me suis dit que ça valait vraiment la peine de vous partager ces questions et pourquoi pas d'en faire un podcast. Alors ce nouveau podcast, et oui c'est un podcast de plus pour moi, démarre donc ce 31 octobre et durera ensuite pendant 30 jours tout au long du mois de novembre. Quelques minutes par jour, le temps de vous proposer la question du jour pour aller vers votre raison d'être, votre élan de vie, comme l'appelle Martin Serralta, Martin que j'interviewe ici, qui est chercheur en prospective dans la vie, mais aussi le créateur de ce questionnaire. Si vous écoutez ce podcast, je me dis que vous devez être intéressé par ces questions et cette envie d'aller le plus possible vers vous-même quelque part, d'où cet épisode que je vous propose aujourd'hui, qui est un épisode d'introduction et de présentation quelque part. Vous pourrez retrouver un lien directement dans les notes de cet épisode pour vous abonner ou bien dans votre appli de podcast préféré en cherchant « Trouver sa raison d'être ». Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer tout au long du mois de novembre. Voici donc l'épisode d'introduction avec Martin Serralta, un épisode un peu plus long que les autres, puis à partir de demain, le 1er novembre, on vous proposera chaque jour une nouvelle question en quelques minutes, expliquée d'abord par Martin, puis on vous donnera avec William Régeau nos ressentis sur la question du jour. Voilà. J'espère du plus profond de mon cœur que ce podcast vous plaira. Je vous souhaite une belle journée, une belle vie et à très vite pour un nouvel épisode sur mes podcasts. On est donc avec Martin Serralta. Salut Martin.
Salut.
Écoute, on est là pour parler de raison d'être. Je crois que t'es un peu le spécialiste parce que t'es le mec qui est derrière les questions du livre de William « Trouver sa raison d'être ». Selon toi, qu'est-ce qui fait que de travailler sur sa raison d'être ou d'aller vers sa raison d'être, c'est important dans une vie ?
Alors, il y a plein de questions en une. La notion de raison d'être en elle-même, elle est intéressante à définir. Et moi, j'aime bien la définir, parce qu'il y a plein de façons de le faire, avec un concept qui vient du philosophe Bergson, qui est l'élan vital. C'est, en fait, ce que je trouve particulièrement intéressant dans la notion de raison d'être, c'est que c'est un élan qui vient de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est une dimension endogène de l'individu, autrement dit, qui part de l'intérieur et qui va s'exprimer vers l'extérieur. Et travailler sa raison d'être, ou travailler, essayer de révéler son élan vital, ça me paraît essentiel pour être au monde, pour conscientiser son être au monde, c'est-à-dire ce être en pleine conscience, en pleine manière consciente d'habiter le monde. Donc c'est un travail de révélation, c'est pas un travail de définition, c'est quelque chose qu'on rend plus clair, plus tangible pour mieux être au monde et mieux s'inscrire au monde.
Et qu'on a en soi, selon toi, dès la naissance ou...
On a un élan vital à partir du moment où on est vivant. C'est-à-dire que je pourrais même dire que, et c'est ce que dit Bergson aussi, mais c'est que c'est une caractéristique de tous les organismes vivants. L'élan vital, c'est cette espèce d'élan créateur de la vie qui fait qu'il y a une force, une énergie, quelque chose qui cherche à se déployer au monde. Donc une plante a un élan vital, un animal a un élan vital, une forêt a un élan vital, une organisation, quelle qu'elle soit vivante, a un élan vital. Et donc un individu, par définition, être vivant, a un élan vital dès la naissance. Après, cet élan vital, il peut être de nature différente. C'est vraiment quelque chose d'évolutif. Donc c'est intéressant, à plusieurs moments dans sa vie, de révéler son élan vital pour conscientiser notre être au monde à ce moment-là.
Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de travailler sur ce concept de raison d'être ?
Alors, ce qui m'a donné envie historiquement de travailler dessus, c'est le fait de travailler dans des organisations et de travailler principalement sur les logiques d'interaction entre les individus dans des organisations. C'est-à-dire comment, concrètement, coopérer en étant soi-même. Les philosophes convivialistes définissent le convivialisme comme philosophie en disant « coopérer en s'opposant sans s'entretuer ». les convivialistes, ils reconnaissent le principe de souveraineté individuelle, c'est-à-dire de que, en fait, pour coopérer, on a besoin d'exprimer sa pleine souveraineté, c'est-à-dire son individualité, sa singularité. Et donc, pour créer des espaces de coopération efficaces, au service d'un élan collectif, eh ben, la première étape, c'est de connaître son élan personnel. C'est d'exprimer, d'être plus en capacité d'exprimer sa souveraineté. Si j'exprime mon élan vital personnel, si j'exprime ma raison d'être, si je trouve ma raison d'être, que je la révèle et que je la révèle aux autres, eh bien, je vais être davantage en capacité de coopérer et de contribuer à un plus grand bien commun, par exemple.
Ok, et donc ce travail-là que tu as fait vient à la base de travail que tu as fait en entreprise.
Alors, il vient d'une recherche qui ne concernait pas que l'entreprise. Moi, j'ai toujours une passion pour les organisations complexes, qu'on trouve évidemment dans les entreprises, mais aussi, par exemple, dans une copropriété. On a des organisations complexes, extrêmement parfois tendues, oui. Où les singularités peuvent s'exprimer de façon violente, dans des associations, des mouvements collectifs qui sont constitués ou non constitués, et puis à l'échelle des pays. Je m'intéresse beaucoup à la question du commun à l'échelle d'un pays. Et donc, c'est parti de là. Mes premières expérimentations ont eu lieu dans des organisations de type entreprise, mais aussi avec des associations ou autres.
Comment t'en es venu à fonder ce questionnaire? Comment t'en es venu à te dire, OK, donc à partir de ce travail-là, il faut faire en sorte de créer un questionnaire et d'avoir 30 questions? Comment ça s'est construit, j'imagine, dans le temps?
Alors, il n'y a pas toujours eu 30 questions. Je me suis inspiré de beaucoup de travaux qui existent, de traditions. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des questions qui tournent autour de l'ikigai, qui est un mode de questionnement inspiré qui vient du Japon, qui vient questionner en fait son rapport au monde à travers quatre questions qui permettent de révéler son ikigai, qui est la même chose, hein, qui est l'élan oui. vital ou la raison d'être. Je me suis inspiré d'autres types de questionnaires et puis j'ai travaillé sur les biais cognitifs à activer pour pouvoir sortir de ces conservatismes. Autrement dit, si on me pose la question de c'est quoi ta raison d'être, de façon un peu basique, souvent je vais avoir des réponses extrêmement convenues. Or, l'enjeu, comme je l'expliquais juste avant, c'est d'aller toucher la singularité de l'individu, c'est d'aller toucher quelque chose qui parle singulièrement de ce qui le met en mouvement, ce qui le fait lever le matin, etc. Et du coup, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de trouver des questions qui vont venir me décadrer de mes modes de pensée classiques, qui vont venir me faire des pas de côté, me déstabiliser, pour que j'arrive à identifier un fil rouge ou des fils rouges, et pour répondre en particulier, particulièrement à cette question de qu'est-ce qui, aujourd'hui, en ce moment, me met en mouvement et comment je le fais de façon singulière. Et là, on retrouve les travaux de Jung sur les préférences, en fait.
Ouais. Hein.
C'est vraiment combiner ça à quelque chose de l'ordre de la finalité ou en tout cas de l'orientation du sens de mon action. C'est pour ça que la notion d'élan vital, c'est ce que dit très bien aussi la philosophe Sophie Chassa qui en parle aussi très bien. C'est ce mouvement, c'est l'élan, c'est la lance, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la projection. Et l'autre dimension, la préférence, c'est comment je projette. Comment je me projette, en fait, et comment je me projette au monde.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ok, donc on va explorer dans ce podcast en fait les 30 questions. Si tu avais des conseils à donner sur la façon de faire, tes best practices, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, pour faire en sorte de faire ce travail.
D'abord, un, prendre en compte le fait que les questions sont bizarres et que c'est normal, donc de se laisser porter par les questions. Les questions, elles sont orientées dans une logique culturelle assez française, hein, mais avec des biais cognitifs. Ces biais ayant pour but de m'aider à révéler des choses. Il y a des questions qui servent de transition aussi vers d'autres questions ou qui ouvrent des champs, qui me permettent d'ouvrir un univers. Donc c'est une logique là qui est prospective, je réouvre le champ des possibles. Donc se laisser porter par les questions, essayer de ne pas trop raisonner. Le terme de raison d'être, il est très intéressant parce que il parle bien de la conscientisation, c'est-à-dire qu'il me ramène quelque chose sur mon être au monde, il lui donne de la substance, de la matière, mais il ne faut pas répondre au questionnaire ou trouver ou révéler sa raison d'être en étant raisonnable. C'est, l'idée, c'est de sortir de tout jugement. Donc le se laisser porter, ne pas porter de jugement sur ses propres intuitions, ce qui sort spontanément. Et ensuite, plutôt quelque chose qui est de l'ordre de la formalisation, j'aime bien le terme d'effectuation, c'est effectuer, c'est je pose, comme je pose des mots, en fait je peux les regarder comme un objet et du coup sentir si c'est juste, un peu comme un peintre, une personne qui ferait une œuvre, qui prend du recul et qui se dit ça c'est le mot juste ou c'est pas le mot juste, pour pouvoir ajuster. Et puis enfin, il y a quelque chose de l'ordre de l'itération, révéler des premières réponses, formuler une première hypothèse, se laisser sentir que c'est pas tout à fait juste, et oser être vraiment dans son territoire. Ce qui est très déstabilisant dans cet exercice, c'est qu'on cherche pas à faire un exercice de communication dans un premier temps.
Oui, c'est pas pour livrer au monde, c'est pour soi.
Dans un premier temps, c'est pour soi. Mmh. C'est utile, dans le cadre de coopération, de livrer, d'en livrer au moins une partie au monde pour donner des clés de lecture. Mais c'est d'abord un exercice d'introspection où je révèle à moi-même. Et si j'arrive idéalement à une formulation qui m'est totalement singulière et que personne d'autre que moi peut comprendre, c'est que j'ai bien fait le travail.
Trop intéressant. Tu suggères de le faire à l'écrit aussi, c'est ça ?
Alors, répondre aux questions à l'écrit, et puis, évidemment, oui, formuler, faire des hypothèses de formulation à l'écrit, mais selon sa sensibilité, chacun ou chacune pourra trouver une manière de l'exprimer sous une forme graphique, sous une forme musicale, voire sous une forme de pas de danse ou autre. L'objectif, c'est de ressentir cette conscientisation, son incarnation dans ce processus.
C'est quoi le conseil que tu donnerais aux gens pour réussir à sortir de ce que ils voudraient bien écrire, ou en tout cas, j'imagine, c'est un travail qui va t'inciter à faire tomber peut-être un masque que tu peux avoir, un masque social, un travail dans lequel t'es aujourd'hui, où tu te dis, moi, finalement, j'y suis pas très bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour arriver à se libérer de ces masques-là, justement?
Alors, c'est un processus difficile. Là encore, ça nous renvoie à Jung et au processus d'individuation. Parfois, on a du mal à passer à travers ces étapes. On a du mal à dépasser le masque social, les injonctions parentales ou même transgénérationnelles qu'on peut avoir. Et donc, le conseil, c'est surtout pour les personnes qui sentent qu'il y a une résistance à cet endroit, c'est de répondre pour soi, uniquement pour soi, c'est-à-dire quasiment créer des conditions autour de soi, s'enfermer dans une petite pièce, aller faire ça dans un endroit reculé, pour oser écrire quelque chose, formuler quelque chose comme ça, regarder devant soi ce que spontanément j'ai envie de répondre. Quand c'est trop difficile, pour certaines personnes c'est trop difficile, ça m'est arrivé encore récemment de rencontrer une personne qui trouvait cet exercice extrêmement confrontant parce qu'elle n'arrivait pas à répondre autre chose que ses injonctions parentales. Une autre piste, c'est l'humour. C'est la caricature, l'humour, c'est-à-dire de dans un premier temps, de répondre de façon volontairement auto-caricaturale, d'en rajouter. Et à partir de cette matière, de refaire l'exercice une seconde fois, ensuite pour s'autoriser à révéler ce qui est en fait le trait souligné dans la caricature. C'est un travail de libération. Et évidemment, ce travail, et notamment quand c'est vraiment très difficile, c'est un travail qui peut inciter à faire un travail sur soi avec des professionnels compétents dans un accompagnement. C'est toujours extrêmement puissant et parfois fondamentalement touchant. Ça peut être un exercice qui est difficile. Les 30 questions qui sont dans ce questionnaire sur lequel William a écrit un livre, c'est des questions qui sont assez douces, quelque part. On peut aller plusieurs crans plus loin pour aller toucher la matière encore plus délicate. Mais dans ces cas-là, il vaut mieux le faire en étant accompagné par des professionnels dans des thérapies qui peuvent être des thérapies courtes ou des professionnels de la psy.
Tu suggères aux gens d'éventuellement aller confronter les résultats de toutes ces questions avec une thérapeute, une psy ou une
psy. Ça c'est la liberté et la souveraineté de chacun. Ce que je pense extrêmement intéressant. Enfin pour moi le travail thérapeutique c'est un travail qui pourrait concerner tout le monde. C'est un travail universel. C'est pas la curation d'une maladie. Je pense qu'on a encore beaucoup de pas à faire dans cette dimension. Je pense que on est dans une époque de transition sur le plan sociologique. On sort de la modernité et on est face à quelque chose de complètement nouveau. Dans cette époque de transition, comme le disaient les conclusions du premier forum social à Porto Alegre, si on veut faire une transformation du monde, et ben il faut d'abord se transformer personnellement, une transformation personnelle pour la transformation du monde. Donc ça peut participer de ce travail. Et après faire un travail de thérapie collective et donc individuelle dans un cadre collectif au service de la transformation du monde, ça me paraît être quelque chose d'assez sain.
Okay.
Révéler sa raison d'être, trouver son élan vital et c'est une petite pierre là-dedans. Et ça me paraît essentiel, oui.
Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les gens qui vont nous suivre comme ça pendant 30 jours et aller écrire et d'aller vers leur raison d'être, justement leur élan vital?
Garder de la légèreté dans cet exercice, parce que au fond la vie est extrêmement créative et donc finalement cet exercice c'est juste un exercice qui nous invite à nous laisser porter par un élan vital global, universel, quelque chose de l'ordre de l'élan, c'est reconnecter à quelque chose qui est présent partout autour de nous. Je le disais tout à l'heure, dans les plantes, l'atmosphère autour de nous, tous les gens qu'on rencontre au quotidien. Donc finalement, c'est un exercice léger de reconnexion à la vie, prenons-le tel que la vie est, c'est-à-dire légère quelque part.
Eh bien, c'est très bien. On va faire ça avec légèreté, alors. Merci beaucoup, Martin. Et on va être rejoint par William dans l'épisode prochain. Donc, n'hésitez pas. On va redétailler l'intégralité des questions. Chaque jour, une question, blablabla. Allez, rendez-vous au prochain épisode. Salut.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.